Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion. Très grand bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Soyez les bienvenus à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble comme chaque samedi jusqu'à midi sur l'antenne de Radion pour une émission littéraire aujourd'hui qui revient sur un très bel événement qui s'est tenu les 25 et 26 septembre dernier en Côte d'Or, très précisément au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Nous revenons bien sûr sur Livres en Vigne, une très très belle manifestation, une fête du livre organisée au cœur du vignoble bourguignon. Un événement créé par Evelyne Philippe que je salue et que je remercie très chaleureusement. Alors, Livre en Vigne est consacré à la littérature générale, mais aussi à la littérature du vin, de la vigne et de l'art de vivre. Cette manifestation œno-touristique et culturelle s'adresse à un large public. Nous y étions et nous y avons notamment enregistré quelques entretiens. Vous avez pu entendre les semaines passées un entretien avec Christophe Donner, mais aussi la semaine dernière avec Azouz Begag. Tous deux étaient invités à la fête Livres en Vigne. Et aujourd'hui, nous revenons sur certains aspects des auteurs qui étaient présents et sur leurs ouvrages, bien évidemment, à travers quelques reportages que nous allons vous proposer en cette fin de matinée sur Radion. Tout d'abord, nous entendrons Aïda Valcianu, qui, comme moi, anime des tables rondes rassemblant des écrivains. Aïda Valcianu, qui vient des Sables d'Olonne, d'ailleurs, jusqu'en Bourgogne, depuis plusieurs années, à Livres en Vigne, pour animer ces tables rondes. Et Aïda nous glissera quelques-uns de ses coups de cœur, des coups de cœur des romans, des premiers romans notamment qu'elle a lu pour animer les tables rondes. Et puis en deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur le bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon à travers une anthologie intitulée « Napoléon, les derniers témoins racontent ». C'est aux éditions du Rocher, une anthologie dirigée par David Chantrane et Jean-François Coulon-Desart, avec une préface de Jean-Paul Kaufmann, qui était d'ailleurs cette année le président de cette 14e édition de Livres en Vigne. Et nous aurons Jean-François Coulon-Desart pour évoquer Napoléon et notamment les dernières années de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène. C'est au programme de Wagon Livre, mais dans la deuxième partie, c'est-à-dire à partir de 11h25. Et puis tout de suite, je laisse la parole à Aïda Valcianu, qui effectivement elle-même est une passionnée d'océan, de marins et de navigation. Aïda qui a commis un livre, elle nous en parle au début de cet entretien et ensuite, bien évidemment, elle nous offrira son florilège de belles lectures que nous vous recommandons et qui peuvent aussi, en cette fin d'année, devenir des idées de cadeaux à glisser sous le sapin à Noël. Tout de suite, Aïda Valcianu.
Oh, et un petit carnet de voyage. Vous savez, la crise de la quarantaine, ça mène à tout, à condition d'en sortir. Je n'avais aucune ambition d'écrire un livre. J'ai eu la chance d'accompagner des navigateurs qui sont partis faire une course un peu vintage, sans technologie, sans GPS, autour du monde, dans des conditions assez... C'est l'événement sportif le plus long au monde aujourd'hui, parce qu'il dure un an. C'était un départ des Sables d'Olonne il y a 4 ans. Je les ai suivis aux Canaries, en Tasmanie, au large de l'Australie. Donc j'ai été très curieuse de comprendre un peu pourquoi on fait ça, pourquoi on donne une année de sa vie pour vivre dans un bateau tout moisi, avancer et au milieu des tempêtes et prendre des risques. 19 sont partis, seulement 5 sont revenus. Donc en fait, ce petit carnet de voyage, c'est un peu le regard de la terrienne qui a le mal de mer sur ces gens-là et la manière dont moi j'ai vu la course. Mais rassurez-vous, je ne le dédicace pas ici parce que je n'en suis pas suffisamment fière.
Merci Aïda pour ces précisions. Le titre tout de même de ce petit carnet...
20 000 lieues au-delà des mers.
Et comment se le procurer ?
Sur Amazon, ou m'envoyer un petit message, on le fait envoyer par l'éditeur, ou dans les librairies. Je ne sais pas s'il est en librairie en Bourgogne, parce que nous n'avons pas un grand diffuseur, mais le plus simple, c'est de me chercher. On me trouve facilement partout sur Internet et je le ferai envoyer par l'éditeur.
Alors Aïda, puisque j'ai le plaisir de te retrouver ici au château du Clos de Vougeot, que tu as lu un certain nombre de livres parce que tu animes des tables rondes, je vais te demander, pour les auditrices et auditeurs de l'émission littéraire de Radion, de nous en présenter quelques-uns, de les guider dans la richesse de la production littéraire qui est quand même énorme en ce mois de fin septembre, début octobre. Alors, par quoi commences-tu, Aïda ?
Alors, je vais essayer de faire rapidement. J'ai choisi plusieurs livres pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Et parce que les goûts et les couleurs, c'est comme le vin et comme la bonne nourriture, chacun a ses goûts. J'ai choisi des livres assez différents. Ce sont des livres que j'ai lus pour ici, pour les débats que j'ai animés aujourd'hui. Et donc, je vais vous présenter d'abord très rapidement 4 premiers romans. Et ensuite, parce que bien manger, bien boire et bien vivre est quand même primordial. C'est le meilleur endroit pour parler de la gourmandise, le plus généreux de péché, et bien la Bourgogne. Je vous présenterai 3 livres qui parle de gourmandise, justement, dans un deuxième temps. Alors, on y va vite, pour ne pas perdre de temps. Je vais commencer avec donc les premiers romans. Et le premier est celui de Sandrine Girard. Elle est éditrice, elle vit et travaille à Paris. En cette rentrée littéraire, elle a publié « Hors de toi ». C'est un roman qui est né chez elle, je pense. Sandrine Girard, elle est éditrice de plusieurs auteurs qui ont connu des gros succès après avoir parlé des problèmes intimes, des violences subies dans leur enfance. Et donc, elle va nous amener dans ce livre sur les traces d'une très jeune fille qu'on voit suivre un peu un panneau mis face à face entre l'âge de 7-8 ans, quand sa vie change un peu. On la suit à l'adolescence, on la suit devenue presque une jeune adulte pour faire simple et sans trop dévoiler l'histoire. C'est une petite fille comme tant d'autres en France qui naît dans une famille recomposée, enfin dans une famille qui va se recomposer au fil du temps. Sa mère est un peu sous l'emprise d'un nouveau mari violent, alcoolique, un caractère assez fort d'un côté. De l'autre côté, chez son papa, la nouvelle belle maman est une femme un peu aigrie par la vie, un peu la marâtre de tant de livres de littérature précédente. Et donc Sandrine Girard essaye de nous amener sur les traces de cette fille pour qu'on comprenne comment, lorsqu'on vit dans un tel milieu, on trouve en soi les ressources de résister et comment parfois aussi on ne les a plus. Je ne veux pas en dire trop parce que je ne veux pas le dévoiler, d'autant plus que même si on devine un peu quelle sorte de violence a subi cette petite fille, nous ne découvrons la réalité qu'à la fin du livre, donc je n'en dirai pas plus. C'est donc un livre qui traite un peu de la résilience en quelque sorte. Sandrine Girard, Hors de toi, aux éditions Calmin Lévy. Dans un autre registre, un premier roman aussi paru chez Albin Michel, L'aube américaine d'Emily Papatheodorou. Emily Papatheodorou est née dans une famille d'origine grecque. Ses parents sont nés en Grèce, sa grand-mère aussi. Elle vit en France, et bien que L'aube américaine se passe aux États-Unis, à Brooklyn, où le personnage principal vit, on y retrouve beaucoup de la Grèce à travers des images, à travers des traditions, et aussi à travers la relation que nous, le personnage principal, que nous, tout au long de sa vie, le personnage principal avec sa grand-mère. Et donc ici, la petite fille n'est plus petite, c'est une presque adulte qui prend soin de sa grand-mère arrivée vers l'âge où la mémoire flanche, où on devient plus aigri, on appelle cela la sénilité, on appelle cela aussi aujourd'hui démence, on devient parfois méchant, on devient aussi une charge pour la famille. Et chez Émilie, la personne âgée reste dans la famille, elle ne va pas en maison de retraite. Donc ce qu'elle va nous raconter, c'est le quotidien de cette jeune femme, les joies, la difficulté de vivre avec quelqu'un qui perd la mémoire. Et en fait, c'est un jeu aussi, un jeu qu'elle joue avec cette grand-mère, qu'elle amène dans la mémoire ancienne, qui est la seule qui reste, celle de la Grèce, celle des souvenirs. Il y a des grands moments de tendresse et en quelques sorte, ce livre est aussi un manifeste pour nous dire que lorsqu'on met peut-être trop tôt nos grands-parents dans la maison de retraite, on se prive aussi de ces moments de tendresse de la fin d'une vie. Voilà, pour raconter rapidement, c'est une jolie histoire, peut-être que je l'ai dit vite, mais elle n'est pas triste. C'est une histoire de famille donc, qui s'appelle L'aube américaine. Et alors, je vais encore vite et je vais vous emmener dans une autre famille en Afrique avec les aquatiques de... je ne l'ai pas dit pour Émilie Papateodorou, elle est chroniqueuse sur Canal+.
Si vous avez manqué de temps pour noter les références des ouvrages dont il est question, vous retrouvez les titres, les noms des auteurs et les éditeurs sur le site d'archives de votre émission littéraire via Internet, bien sûr, sur le www.yannickpetit.fr. On retrouve Aïda Vadjianou d'ici quelques minutes. Le temps pour nous de marquer un premier intermède musical. Je vous rappelle que c'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous revenons sur cette très belle fête du livre qui s'est tenue les 25 et 26 septembre dernier au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Je veux parler bien sûr de Livres en Vigne.
Mesure du temps, on attend, on s'y pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent, on sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort. Puis à l'envers, toucher du bout des doigts nos rêves tant qu'on peut le faire. Si on rêvait plus fort.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Excellente fin de matinée à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie pour ce Wagon Livre qui revient sur la 14e édition de Livres en Vigne qui s'est tenue les 25 et 26 septembre dernier au château du Clos de Vougeot. Il faut savoir que chaque année, Livres en Vigne décerne des prix littéraires. C'est le prix Albert Bichot qui récompense cette année le roman de Azouz Begag, L'Arbre ou la Maison, aux éditions Julliard. Azouz Begag que vous avez pu entendre samedi dernier dans votre émission littéraire. Le prix coup de cœur Rougeau-Meursault a été, lui, attribué à Clara Dupont-Monod pour son roman intitulé « S'adapter » paru aux éditions Stock. Le prix du premier roman a récompensé Léa Chauvel. Alors, prix du premier roman, Méo Camuset récompense Léa Chauvel-Lévy pour son roman Simone, paru aux éditions de l'Observatoire. Et puis, il y a le prix du Claude Vougeot, qui récompense un ouvrage sur le vin, la vigne et l'art de vivre, et qui est parrainé par la confrérie des chevaliers du Tatevin. Et bien cette année, c'est Nicolas Destien-Dorv pour son petit éloge de la gourmandise, paru aux éditions François Bourin. Nous retrouvons une des animatrices des tables rondes du salon Livres en Vigne, Aïda Valchenou, qui continue à distiller pour nous quelques coups de cœur des ouvrages qu'elle a lus et découverts avant que d'animer les tables rondes à cette 14e fête du livre au château du Clos de Vougeot. Je rappelle, c'était fin septembre dernier. Retour avec Aïda Valchenou à notre micro.
Oswald Le Watt s'est fait connaître avec des documentaires sur l'Afrique. Elle a été primée, elle a fait des photographies. Elle publie avec Les Aquatiques aux éditions Les Escales un premier livre qui l'amène. Elle est née au Cameroun. Donc l'action du livre se passe dans un pays d'Afrique qui a un nom un peu exotique, mais dans lequel on retrouve beaucoup de pays d'Afrique. C'est l'histoire de Katmé, une femme arrivée à la quarantaine, une épouse. C'est l'histoire d'une femme africaine en Afrique, nous dit l'auteur. Une femme qui n'est pas mariée, c'est une femme, quelles que soient ses capacités intellectuelles, quel que soit son travail, si tu n'es pas mariée, tu n'es pas une femme accomplie. Donc cette Katmé fait le choix de la tradition, celui de se marier, d'avoir une famille, deux enfants. Son mari est préfet, donc a une fonction importante, et elle subit un peu sa vie. Au début, le livre est une histoire d'amitié entre Katmé et un garçon, son ami d'enfance. Très rapidement, on découvre que ce garçon qui est artiste, qui est sculpteur, est homosexuel. Et là, nous touchons à un problème assez douloureux, en tout cas décrit comme tel dans le livre, celui de l'homosexualité dans les pays d'Afrique, où la violence avec laquelle on accueille les homosexuels est, paraît-il, encore aujourd'hui inouïe. Et donc, dans le livre, nous avancerons aussi sur ce terrain-là. Il y a des scènes qui sont assez violente, assez déroutante. Et puis il y a, à la fin, on se dit qu'au fond, tout ce qu'on a lu dans ce livre, cette femme Katmé qui va faire, je ne vais pas raconter la fin, mais qui aura à un moment donné la force de vouloir changer des choses, on se le dit après coup, en le finissant, que ce n'est pas seulement une histoire qui se passe en Afrique, même si tout y est africain, les couleurs, les saveurs, les odeurs, c'est une histoire de toute femme qui, à 40 ans, se pose des questions lorsqu'elle a choisi le destin, un peu choisi, un peu peut-être la facilité pour ne pas froisser les uns et les autres. Donc, il peut se lire aussi comme une histoire universelle. Et alors, donc c'est Les Aquatiques aux éditions Les Escales.
De Oswald
Le Watt. Je ne sais pas si cela se prononce comme ça. Et puis, je vais finir avec « Mourir au monde », publié en cette rentrée littéraire aux éditions Plomb. Il est écrit par Claire Conruth, qui a fait des études de journalisme, qui travaille depuis un an environ au Figaroscope, le Figaro étudiant. C'est une jeune auteure de 25 ans et c'était assez surprenant de voir la thématique qu'elle choisit. Elle a choisi de nous parler d'amitié aussi, mais elle choisit une histoire d'amitié qui se passe entre deux bonnes sœurs. Sœur Anne, qui est au couvent, qui a 40 ans, vous allez comprendre que ça doit être un âge difficile pour les femmes, puisque Sœur Anne, bien qu'elle vive au couvent, qu'elle vive en France et non pas en Afrique, elle est aussi à l'âge des questions, de choix. Elle est rentrée dans les ordres à 20 ans. Sa foi s'est un peu effritée avec le temps. Elle se demande si elle ne s'est pas trompée de vocation. Et à ce moment-là, on lui demande d'accompagner une novice, Jeanne, une jeune femme pétillante, pleine de lumière, pleine de joie, en parfaite santé, qui ne se pose aucune question, qui vit la foi d'une manière tellement simple, tellement évidente. Et donc, tout le livre va se construire entre les questionnements de Sœur Anne. Est-ce qu'elle se tromperait? Est-ce qu'elle a déjà été, même il y a 20 ans, comme Sœur Jeanne, aussi certaine, aussi sûre d'elle? Et donc, on va suivre les deux personnages dans le livre. alors que Seurin devait juste accompagner la jeune novice, l'amitié se crée, ce qui crée des problèmes. Je ne rentre pas dans les détails parce que je ne veux pas vous raconter la fin qui est assez surprenante. Ce n'est pas un livre qui critique le choix de rentrer dans un couvent, ni un livre qui critique la religion, bien que la vie dans un couvent puisse parfois, avec ses règles, être assez dure. C'est un livre qui traite vraiment, enfin en tout cas moi je l'ai lu comme ça, qui traite vraiment de l'amitié, des questionnements de la vie, et qui est un livre assez, en fait, très lumineux jusqu'à la fin, que je ne vous dévoilerai pas, qui est très surprenante. C'est un livre positif. C'est un livre qui se lit aussi, parce qu'au fond, on n'a pas vraiment de fil narratif, on n'a pas beaucoup de personnages. Mais c'est un livre qui se lit de manière très paisible, et tant qu'il fait beau, si quelqu'un de vos auditeurs voulait l'acheter pour le lire, moi je conseille de le lire dans les vignes avant que la pluie arrive. C'est donc Mourir au monde de Claire Conruyt aux éditions Plomb. Et je suis assez certaine que si vous le lisez dans les bonnes conditions, vous passerez un bon moment agréable.
Si vous avez manqué de temps pour noter les références, les titres, les noms des auteurs et les maisons d'édition des ouvrages que Aïda Valcianou nous propose aujourd'hui, eh bien, soyez rassurés, via Internet, vous vous rendez sur le site d'archives de l'émission Wagon Livre, www.yannickpetit.fr, et vous y trouverez toutes les informations qui vous intéressent et vous passionnent. Excellente fin de matinée sur Radio. Nous marquons un nouvel intermède musical et nous redonnons la parole à Aïda Valcianou juste après la virgule musicale que nous vous proposons. No, you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. When my eyes started to burn and you turned your back on me, well you see I slipped away. Now turn to me, 'cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me, don't come try.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'était un très beau rendez-vous donné aux éditeurs, aux libraires et aux lecteurs pour la 14e édition de Livres en Vigne, le salon du livre, de la gastronomie et d'un certain art de vivre. C'était les 25 et 26 septembre dernier en Côte d'Or, au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon. Je vous propose cette fois-ci, vous passionnés de littérature, amoureux des livres, mais aussi amateurs de partage, eh bien, je vous propose une petite séquence gourmande grâce à la participation de Aïda Vatcheanu qui va nous donner quelques pistes de lecture qui pourraient bien aiguiser nos papilles.
Parlons aussi un peu de gourmandise et faisons-le vite. Alors, je vous ai choisi trois livres très différents. Dominique Loiseau d'abord, La revanche d'une femme aux éditions Michel Lafon. Vous rappelez sans doute tous en 2003 le décès très surprenant de Bernard Loiseau. Lorsqu'il décède, son épouse a des restaurants, un hôtel à la charge, et là surtout
à
la charge
entre autres à Saulieu en Côte d'Or.
Oui, exactement. Hein, elle a la charge de trois enfants, et alors que la nouvelle du décès lui tombe dessus, alors voilà, quand quelqu'un n'est pas malade, toujours le décès est difficile, mais lorsqu'il est aussi brutal, c'est un vrai choc. Et à l'instant précis, en ce mois de février où son mari décède, elle fait le choix, elle trouve en elle la force et le courage de reprendre les rênes de l'entreprise familiale, de continuer. Et en lisant le livre, on se dit que c'est même pas pour elle. C'est parce qu'elle est presque dépassée par ce qui se passe. Il y a les trois enfants, il y a les employés, il y a la maison, il faut avancer. Et donc, elle trouve, elle le fait. Et en lisant le livre, je ne vais pas faire long, mais en lisant le livre, c'est une petite fille alsacienne, en fait, Dominique Loiseau, qui a grandi dans une ferme. Et je crois qu'elle le fait avec une forme de devoir, et puis à la même manière que dans une ferme, lorsque quelque chose arrive, les animaux, il faut les nourrir, la ferme, la vie doit continuer, donc on ne se pose pas trop de questions, on y va. Et elle fait un peu cela, et donc c'est un peu l'histoire de sa vie, la revanche d'une femme, et l'histoire de comment elle est devenue présidente du groupe Bernard Loiseau, qui encore aujourd'hui, garde ses restaurants, ses hôtels, et puis c'est aussi une histoire de transmission, parce que les enfants travaillent dans le même lieu parce qu'ils ont grandi. Voilà. Pour raconter très rapidement, donc, La revanche d'une femme aux éditions Michel Lafon.
Dominique Loiseau.
De Dominique Loiseau, voilà. Et là, je crois qu'il va pleuvoir, ce bruit. Donc, alors, on se dépêche. Je vous ai choisi aussi une BD. Pour les plus petits, c'est une BD un peu militante, écrite par Emmanuel de la Comté, avec des illustrations de Fanny Briand et elle est aidée dans l'écriture par Christian Régoubi, qui avait publié un livre, je ne sais pas si vous vous rappelez, un livre qui s'appelait « Bien manger est un acte, manger est un acte militant », quelque chose comme ça. Donc Emmanuel de la Comté, qui est professeur, elle est professeure en Seine-Saint-Denis, un jour en classe, l'histoire du livre est partie d'un constat, un jour en classe, elle prend une étiquette d'un sandwich, jambon beurre, fromage, elle demande à ses élèves, elle ne montre pas le sandwich, elle montre juste l'étiquette, elle la fait lire, elle demande aux élèves de quel produit s'agit-il. Il y avait tellement de choses sur cette étiquette et des mots qui ne voulaient rien dire parce qu'ils étaient tous chimiques, qu'aucun élève n'a été capable de trouver qu'en fait, ce qu'il mangeait là, c'était un sandwich jambon-beurre. Tellement il était impossible de lire. Et donc, elle a fait ce livre dans un souhait d'éduquer un peu au goût, de faire découvrir aux enfants qui ont parfois mangé beaucoup de choses, acheté, emballé sous plastique, de les amener sur ce terrain de la gastronomie, du bien manger, de leur donner envie de découvrir à quoi ça ressemble, je ne sais pas, à Neuf Morettes, par exemple. Plaisante. Et donc, elle va un peu partout en France, sur les traces de plusieurs chefs. Elle le fait de manière très simple, très ludique. C'est un garçon qui est amené par son grand-père pour découvrir. Et donc, ce sont les yeux du garçon qui découvrent les recettes et les chefs un peu partout. Et donc, c'est une BD qui se lit très facilement.
C'est chez Flammarion.
C'est chez Flammarion, je ne l'ai pas dit. Et enfin, je finis avec le prix du château du Clos de Vougeot 2021, décerné hier soir ici au château, Nicolas Destiendorf pour le petit éloge de la gourmandise aux éditions François Bourand. Nicolas Destiendorf est petit-fils de résistant, il est écrivain, il a commis plus d'une trentaine de livres, essais, nouvelles, biographies. Il est critique d'opéra, voilà, également. est ici, il se plie à ce petit jeu de... Vous savez, il y a des dictionnaires amoureux, il y a toute une série qui s'appelle Petit éloge 2, et là, c'est donc un petit éloge de la gourmandise. Je le disais tout à l'heure, le plus généreux des péchés, et c'est vrai. Et donc, il va choisir, il veut organiser un chapitre, comme un abécédaire, et chaque lettre a... Il y a des lettres qui font plus ou moins envie, la lettre A, déjà, pour commencer, les abats, qu'il défend, et ça c'est joliment écrit. Il y a des histoires, des anecdotes de comment à 16 ans il trouve l'argent, il invite un copain, ils vont manger dans un restaurant étoilé, 3 étoiles, et comment ils se sont sentis terriblement coincés dans ce restaurant. Il y a aussi des histoires plus dégoûtantes, on parle même de cannibalisme. Donc chaque lettre.
On parle d'Hitler aussi.
Peut-être bien aussi. Chaque lettre est un chapitre, est une balade un peu partout en France, avec les plats qu'on aime, les plats qu'on n'aime pas, dans son enfance aussi, dans sa vie. Donc c'est un livre, un tout petit livre qui coûte 12 euros, qui se lit très, très facilement. Voilà, avant que la pluie arrive, mon cher Yannick.
Petit éloge de la gourmandise de Nicolas Destiendorf, chez François Bourin, éditeur.
Voilà, quelques petites idées de lecture en ce samedi de fin septembre.
Un grand merci, Aïda, pour ces chroniques et ces idées de lecture pour les semaines ou les mois à venir, presque en direct du château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon.
Merci, Yannick, à bientôt.
Merci, Aïda, au revoir.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule et d'eau, à moitié épaillis, on se mouillait mollement. La glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Un monde nouveau, on en est tous. Ça nous faire demain. Un monde nouveau, on en est tous. Ça nous faire demain. Zéro, attraper le Bluetooth. Le monde de demain, on le bégayait tous, sans n'y comprendre rien, à la loi nouvelle des éléments, qui nous foutait la frousse, les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez, dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner, l'évidence était sous nos yeux, comme une publicité, qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau, on en est tous. Que ça vient nous faire demain. Un monde nouveau, on en est tous. Mais que ça vient nous faire de nos mains. Presque rien, presque rien. S'attraper dans les bras.
Wagon Livre, Votre émission littéraire.
Comme je l'avais annoncé au début de notre émission, lors de cette 14e édition de Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot, j'y ai rencontré Jean-François Coulon-Desarts, qui signe avec David Chantrane une anthologie intitulée « Napoléon, les derniers témoins racontent », ouvrage qui s'inscrit aux éditions du Rocher dans le cadre du bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon. Alors, Jean-François Coulon-Desarts était présent au salon Livres en Vigne, il est écrivain et journaliste, il a réalisé 5 documentaires de référence tournés sur les lieux de l'épopée napoléonienne. Il est aussi l'auteur d'une dizaine d'autres films documentaires sur le Premier Empire. Et les deux auteurs, Jean-François Coulon-Desarts et David Chantrane, se sont rendus sur l'île de Sainte-Hélène sur laquelle Napoléon est mort le 5 mai 1821. Alors tout de suite, je pense qu'il n'est pas superflu de demander à Jean-François Coulon-Desarts où se trouve cette célèbre île de Sainte-Hélène.
Alors c'est au milieu de l'Atlantique Sud, à peu près à 3400 km des côtes brésiliennes et à 2800 km des côtes africaines. C'est une bastille des mers de basalte noir. Quand on arrive, on arrivait par bateau, normalement depuis quelques années, depuis 3 ans, il y a un aéroport, mais on arrivait par bateau. Et le bateau est toujours omniprésent parce que tout est importé à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène est une île qui appartient à l'Angleterre. Et c'est grand comme Paris intramuros, à peu près, pour vous donner une idée, un climat tempéré. Et ce fut une destination très importante parce que tous les bateaux qui descendaient d'Europe pour aller aux Indes s'arrêtaient au 18e, au 19e, à Sainte-Hélène pour refaire les pleins d'eau, les pleins de légumes, etc. Mais quand on a construit le canal de Suez, l'intérêt stratégique de Sainte-Hélène s'est évaporé. Et il y a eu un deuxième coup dur pour cette île, c'est qu'ils cultivaient une plante qui s'appelle le flax. Le flax, ce sont des feuilles peu larges et très longues. Et on faisait les meilleurs cordages du monde pour les bateaux. Mais avec l'arrivée du cordage synthétique dans les années 60, Sainte-Hélène ne sert plus à rien aux Anglais, si ce n'est à ennuyer les Français. Alors Sainte-Hélène est le seul endroit du monde où on peut avoir un pied en Angleterre, un pied en France. Oui. Pourquoi ? Parce que la maison de Longwood où a résidé Napoléon, les Briards où il a passé 3 mois en attendant qu'on prépare sa demeure, plus la vallée de la tombe, parce qu'il y a quand même passé 19 ans, appartiennent à la France. C'est Napoléon III qui les a achetés à la reine Victoria, en tout cas pour Longwood et la vallée de la tombe. Les Briards ont été offerts à la France par les descendants des Balcombes qui avaient accueilli Napoléon Ier en octobre 1815. Donc c'est français.
Il
y a un consul de France à vie, nommé à vie, Michel Martineau, qui a pris la succession de son père. Et Michel est à la fois consul de France et conservateur des domaines. Donc il dépend de 2 ministères en France, ce qui parfois est un peu compliqué, les affaires étrangères et la culture. Et il a remis la maison exactement dans l'état où elle était le 5 mai 1821, date de la mort de l'empereur. Les jardins ont été redessinés à l'identique, tout a été refait. Il a retrouvé dans l'île les meubles qui avaient été vendus à la mort de Napoléon. Il en a retrouvé plus d'une centaine. Et là, il reste un dernier chantier. Il faut remplacer le toit. Il faut remettre les ardoises sur le toit, parce que c'est un toit en ardoise, en tout cas à l'œil, mais en fait, c'est synthétique. Et il veut remettre les vraies ardoises, etc. Et là, la maison sera absolument parfaite. Allez-y, vous avez l'impression d'entrer chez l'empereur, quoi.
Alors, la maison est parfaite, mais enfin, elle n'est pas facilement accessible. C'est loin, d'abord.
Alors, c'est très loin.
Et puis, qui va en pèlerinage, là-bas ?
Alors, beaucoup de gens. Alors là, avec le Covid, il n'y a pas eu de Covid dans l'île, parce que pendant un an, l'île a été entièrement fermée. Vous ne sortiez pas, vous ne rentriez pas dans l'île. Donc, ils se sont tous fait vacciner. Et les commémorations, il y a beaucoup des milliers de personnes avaient prévu de venir pour les commémorations du bicentenaire de la mort, ont eu lieu. On a pu les suivre via Internet, mais elles vont recommencer l'année prochaine parce que l'île s'ouvre à nouveau aux visiteurs. Alors maintenant, pour aller à Sainte-Hélène, c'est plus simple. Moi, quand j'y suis allé, j'ai pris un avion de Paris à Tenerife, en Espagne. On a attendu le Sainte-Hélène qui descend de Cardiff, en Angleterre. On a embarqué, 12 jours de mer, et on arrive à Sainte-Hélène. Et vous arrivez à Sainte-Hélène, vous avez encore une fois la même vision qu'a eu l'empereur Napoléon, qui a dit, il est monté sur le pont, il a tiré sa lorgnette, il a rangé sa lorgnette après avoir jeté un coup d'œil sur l'île. Il s'est retourné vers la Scase et il a dit « C'est pas un beau séjour. J'aurais mieux fait de rester en Égypte. Je serais à présent empereur de tout l'Orient. » Donc on a là, cette vision-là. Bref, il y a 12 jours de mer et il n'y a pas de port à Sainte-Hélène. Vous débarquez par une échelle de coupé, on vient vous chercher une espèce de barque, faut pas se foutre à l'eau, quoi. C'est compliqué. Sur l'HT, je me souviens, il y avait un portique avec des cordes. Ils pendent des gens ici ou... Non, pas du tout. C'est quand vous arrivez à terre, on vous jette une corde et vous sautez sur la terre, quoi. C'était très rudimentaire, on va dire. Alors maintenant, il y a un aéroport que les Anglais ont construit avec beaucoup de difficultés. La piste était trop courte, c'est des avions, il y a un climat, il y a un vent très particulier, un peu comme à Hong Kong. Donc il faut que les pilotes aient une qualification spéciale. Ce sont des petits avions qui doivent prendre 110, 120 personnes. Et vous faites un Paris-Johannesburg, un Paris-Le Cap, changez d'avion et 4 heures après vous êtes à Sainte-Hélène.
Alors, qui entoure Napoléon sur cette île de Sainte-Hélène, sur ce confetti au milieu de l'océan Atlantique?
Absolument.
Enfin, pas tout à fait au milieu de l'océan
D'ailleurs,
Atlantique.
D'ailleurs, Bonaparte, le jeune Bonaparte, sur ses cahiers des colis, avait écrit à Sainte-Hélène, on l'a ça dans les archives, Sainte-Hélène de point petite île. Il s'est pas trompé. Alors, il est venu avec le fameux Lascaz, qui est l'auteur du mémorial, qui était publié en 1823. Et ça a été un best-seller absolument incroyable, un des premiers best-sellers de librairie. Alors il y a Lascaz, il y a le grand maréchal Bertrand, il y a le général Montholon, le général Gourgaud, il y a Marchand, son valet de chambre, il y a Ali, et il y a toute une flopée de serviteurs. Il y a Cipriani, son maître d'hôtel. L'histoire de Cipriani est amusante parce que Cipriani, c'était il est corse. C'était un grand gaillard qui a servi pendant tout l'Empire à tout pour Napoléon, d'espion. Il a vraiment, c'était l'homme de confiance. Et ce pauvre Cipriani, un jour, il est pris de douleur au ventre, il se tordait de douleur, et le lendemain, il est mort. Et on ne sait pas où il est enterré. On n'a jamais retrouvé sa tombe à Sainte-Hélène. C'est un des grands mystères de Sainte-Hélène, c'est la disparition de Cipriani. Donc, il est enterré. Il est enterré, je suppose, oui, dans l'île, ça c'est sûr, mais où, on n'en sait rien. Donc, il y a aussi des femmes. Il y a Madame Bertrand, la femme du grand maréchal. Il y a Albine de Montholon, qui fut, on le sait, la dernière maîtresse de Napoléon. Et Albine de Montholon, si vous voulez la voir, on peut la voir. Il faut aller à Montpellier, dans la chapelle des Pénitents Bleus, qui est en plein cœur de ville. Vous descendez dans la crypte, et là, vous avez Albine, qui a été momifiée. Et qui a son cercueil, c'est une plaque de verre, et vous voyez une dame d'une soixantaine d'années, le teint assez frais encore, qui repose pour l'éternité, Albine de Montholon, dernière maîtresse de Napoléon.
Alors c'est vraiment un carré de fidèles qui entoure Napoléon et qui accepte de partir en exil avec lui.
Ils acceptent, d'abord beaucoup se sont battus pour partir en exil avec lui, il n'a pu emmener que ces gens-là parce que les Anglais ont limité le nombre. Acte 1. Et puis au cours de la captivité, parce que c'est une captivité, il ne faut pas rêver. Si vous voulez, Longwood, quand on voit Longwood, pour nous, ça nous apparaît comme une très très jolie maison de campagne. Pour un type qui a été habitué à vivre dans tous les palais d'Europe, c'est une bicoque, quoi, je veux dire, battu par les vents, avec un climat. Les nuages s'arrêtent sur le pic de Diane, donc il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de pluie, etc. C'est un climat très humide, c'est très compliqué. Et autour de l'empereur, il y a un phénomène de cour.
Il y a
Il y a un phénomène de cour.
Moments rituels où l'on conserve la para.
Les déjeuners, le dîner, on conserve toujours. Il dîne en grand uniforme. Il tient beaucoup à conserver cette cour. D'autant plus que le gouverneur, cet odieux personnage qui s'appelle Hudson Lowe, qui n'a pas arrêté d'essayer d'humilier Napoléon, qui n'a pas arrêté de... Et en même temps, Napoléon a tout de suite vu que le type était obtus. C'était un buteur. Allait lui rendre un grand service. Lequel ? Napoléon a porté la couronne de France, la couronne d'Italie, et il lui en manquait une pour sa postérité, on va dire, la couronne d'épines. Hudson Lowe lui a offert sur un plateau et ce buteur anglais n'a rien vu. Il est mort d'ailleurs tout seul parce qu'il a fait un boulot, il a fait plus qu'un sale boulot et les Anglais l'ont laissé vraiment dans... Il est mort tout seul comme un chien, quoi, je veux dire. Donc pas du tout considéré. Il pensait qu'avoir gardé l'homme le plus puissant du monde allait lui ouvrir une voie pavée d'honneur. Pas du tout, ça c'est le contraire.
À l'instant, Jean-François Coulon-Desart à notre micro enregistré lors de la 14e édition de Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot. C'était le 26 septembre dernier. Jean-François Coulon-Desart qui signe avec David Chantran, Napoléon, les derniers témoins racontent. C'est disponible actuellement aux éditions du Rocher avec une préface de Jean-Paul Kaufmann qui était d'ailleurs le président de l'édition 2021 de Livres en Vigne. On vous propose un petit intermède musical et puis on retrouve Jean-François Coulon-Desarts juste après pour évoquer les conditions dans lesquelles l'empereur Napoléon est mort à Sainte-Hélène le 5 mai 1821.
J'y comprends rien aux mathématiques, c'est bien ça Loïc. On n'est pas fait pour s'entendre, on n'est pas fait pour se comprendre. On ne parle pas la même langue, sauf quand on est dans le même lit. Alors là on sait tout, l'alphabet de A à Z. On joue avec les mots, on fait des scrabbles en même temps. C'est comme une corrida, c'est comme une corrida.
Votre émission littéraire.
Retrouvons l'écrivain et journaliste Jean-François Coulon-Desarts qui signe avec David Chantran une anthologie intitulée « Napoléon, les derniers témoins racontent » parue aux éditions du Rocher avec une préface de Jean-Paul Kaufmann qui était d'ailleurs le président de la 14e édition de Livres en Vigne. Alors Jean-François Coulon-Desarts, que j'ai rencontré le 26 septembre dernier au château du Clos de Vougeot, revient sur le 5 mai 1821, jour de la mort de Napoléon. On a dit tout et n'importe quoi sur la mort de Napoléon, notamment l'hypothèse selon laquelle l'empereur aurait été empoisonné. Explication de Jean-François Coulon-Desarts.
Il n'a pas du tout été empoisonné, il est mort d'un cancer de l'estomac comme son père, et surtout il est mort d'ennui. Pour un type qui a passé toute sa vie à cheval à guerroyer d'un palais à l'autre, il est mort d'ennui. Alors la thèse de l'empoisonnement, elle a été, c'est dans les années 60 si je me souviens bien, c'est un dentiste suédois ou norvégien qui a imaginé ça parce qu'il a trouvé de l'arsenic dans les cheveux de Napoléon. Sauf que de l'arsenic, il y en avait à l'époque beaucoup dans les cheveux, même nous on en a toujours. Donc la thèse est venue de là. Et elle a été popularisée par un type qui s'appelait Ben Vader, qui était un milliardaire canadien, et qui a essayé de vraiment de caper des historiens pour argumenter, pour machin, etc. On sait très bien que tout ça est faux, tout ça sont des balivernes totales.
Et comment Napoléon occupe-t-il les journées de plus de 5 ans donc, cette île, hein, donc de 1815 à sa mort,
alors, au début,
le 5 mai 1821.
Au début, justement, il dicte, il raconte sa vie. Donc, que ce soit Lascaz, Gourgaud, Montholon, Bertrand, tout le monde, même Ali, Marchand, tout le monde est mis à la dictée. Il dicte, et Napoléon a passé sa vie à dicter. Vous savez très bien qu'il dictait trois lettres différentes à trois secrétaires en même temps. Et ensuite, ces gens-là, pendant la nuit, remettent ça au propre. Et Napoléon recorrige le lendemain. Et ça a occupé beaucoup de temps. Et puis, il y a là, sa santé se dégradant en 19. Il y a un petit mieux fin de l'année 19 et en début de l'année 2020. Et puis ça se dégrade. Après, en début 2021, et là, il ne s'en remettra pas, quoi. Donc, il dictait beaucoup. Mais il y a eu, dans ces périodes-là, une fois que sa santé s'est dégradée, parce que c'était un type... Il aimait l'exercice, Napoléon. Et là, il ne fait plus l'exercice parce qu'on l'oblige, sinon, à ce qu'il soit suivi par des officiers anglais. Et pour lui, c'est impossible. Donc, il ne monte plus à cheval. Donc, il sort de moins en moins. Donc, il prend de l'embonpoint. Donc, à Sainte-Hélène, ses nuits ont été plus longues que ses jours.
Vous me disiez que finalement, aujourd'hui encore, nous vivions sous l'ère napoléonienne.
Mais les Français
et nous n'en avons pas assez conscience.
Mais c'est exactement ça. Il n'y a qu'à voir l'œuvre législative qui a été faite en 15 ans de pouvoir, parce que finalement, il n'a régné que 15 ans. Alors, d'abord, il faut se souvenir que la Constitution, l'article 1 de la Constitution de l'Empire, c'est la France est une république dont le gouvernement est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français. Donc déjà, il ne faut pas oublier ça. Et en 15 ans, alors, son œuvre magistrale, c'est le Code civil, qui est toujours d'actualité, qui a été toilété, bien sûr. Mais,
et qui a inspiré toileté, même les codes civils d'autres pays du monde.
Vous avez tout à fait raison. Il a été toileté de 25%. Alors après, la liste est longue. La création des lycées, la Légion d'honneur, la numérotation des rues, le franc qui a tenu quand même, le franc germinal, qui a tenu jusqu'au franc Poincaré, c'est-à-dire qui a tenu plus d'un siècle. La création de la Banque de France, les universités, le commerce, le code du commerce et les tribunaux de commerce, même la retraite des fonctionnaires, c'est lui qui la met au point, qui l'invente. Je veux dire, on pourrait multiplier les exemples. Et les Français ont peut-être oublié, mais on vit toujours sous cette égide-là, sous ces codes-là. Et je crois qu'on s'en porte pas plus mal, ça tient depuis 200 ans. Donc c'est dire combien Napoléon était visionnaire dans ce qu'il a mis au point.
Et vous, alors, quel lien entretenez-vous avec Napoléon ?
C'est comme Barrès.
Vous êtes dans une nostalgie ?
Une nostalgie de la grandeur de la France, certainement. Je veux dire, notre grandeur a un peu pâli. Elle n'est pas éteinte et ne s'éteindra pas. Mais elle a un peu pâli. C'est sûr. Puis c'est ce que disait Barrès. Napoléon est un professeur d'énergie. C'est quelqu'un qui vous aide à vivre. C'est formidable. Et puis, à cette époque, je veux dire, on allait se faire tuer pour liberté, égalité, fraternité. L'armée napoléonienne, c'est ça. Alors, Napoléon, mangeur d'hommes, etc., il y a eu 6 coalitions contre nous. 6 fois, on nous déclare la guerre. C'est pas nous qui avons été, mais malheureusement, pour nos ennemis, ils se retrouvent face à Napoléon. Donc, ils prennent des déculottés, ça c'est sûr. Et des sévères.
Jean-François Coulon-Desarts, finalement, nous l'avons vu, il y a eu tout de même des polémiques, des prises de position partisanes, politiques aussi, hein, un regard
surtout
politique.
Surtout la gauche et l'extrême gauche, bien voilà. Sûr, oui.
Et il est beaucoup question de l'esclavage, oui. D'un Napoléon,
oui,
esclavagiste qui a écrasé individus dans les colonies. Alors qu'en est-il ?
Non, il a écrasé personne. Il a rétabli l'esclavage en 1802 à la demande des Iliens. Pourquoi ? Parce que les Anglais, eux, avaient l'esclavage et que les colonies françaises crevaient de faim. Et on ne vendait plus rien. Donc c'est un rétablissement économique. Napoléon n'a jamais été esclavagiste. Donc il en parle d'ailleurs à Sainte-Hélène où il rencontre un esclave qui s'appelle Toby. Et il reconnaît que c'est une erreur d'avoir fait ça, mais économiquement, il ne pouvait pas faire autrement. Et tous ces gens qui sont les tenants de cette tête Napoléon esclavagiste oublient une chose, c'est quand il revient après les 100 jours, quand il revient à l'Élysée au pouvoir, c'est le premier au monde à abolir la traite des Noirs. C'est nous qui l'avons fait, c'est Napoléon qui l'a fait. Donc voilà. Mais c'est très difficile, vous savez, de parler d'histoire ou de notre histoire dans les médias quand vous avez des gens qui sont gangrénés par Internet. Et puis, encore une fois, j'aime bien l'expression, vous allez me dire, mais c'est une espèce de mitraille de l'ignorance, vous y connaissez rien.
Mal renseignés ou totalement
incultes. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas lu, ils n'ont pas machin, etc. Regardez ce qu'on apprend maintenant, parfois, dans les livres d'histoire à nos gamins. Je veux dire, c'était sous Nadja Vallaud-Belkacem, la ministre de François Hollande, ministre de l'Éducation, c'était quand même surréaliste. Les gamins apprenaient la Révolution et l'Empire, une page manuelle d'histoire. L'Empire du Monotapa, qui est un empire obscur au fin fond de l'Afrique, 18 pages. Donc, si on n'apprend plus le récit national, comment voulez-vous qu'on cimente un peuple ? Il y a deux choses qui cimentent un peuple, il y a la langue et le récit national. Voilà, dont on est chacun une petite parcelle, une petite atome d'histoire. Donc, c'est tout. Alors voilà, on a beaucoup ferraillé là-dessus, mais c'est bon, c'est passé, on s'en fiche.
À l'instant, c'était Jean-François Coulon-Desarts qui signe avec David Chantrane « Napoléon, les derniers témoins racontent ». C'est aux éditions du Rocher avec une préface du journaliste et grand reporter Jean-Paul Kaufmann. Un échange enregistré lors de la 14e édition de Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot. Si vous n'avez pas pu noter ou si vous avez manqué les noms des auteurs, les titres des romans, des ouvrages dont il a été question aujourd'hui, vous les retrouvez via Internet sur le site d'archives de Wagon Livre www.yannickpetit.fr. Je remercie Aïda Vacheanu de nous avoir livré ses coups de cœur. Ce fut un moment très plaisant que je souhaitais partager avec vous. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congé de fin de semaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h, bien sûr, samedi 23 octobre sur Radion. Encore merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain.